VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 12 novembre 2020. Ici aux États-Unis, la Géorgie va raconter à la mer l'ensemble de ses bulletins de vote de l'élection présidentielle américaine en raison de la faible avance de Joe Biden sur Donald Trump dans l'État, ont annoncé mercredi les autorités locales. Une tâche immense a conclu avant la date butoir du 20 novembre. Le premier dépouillement en Géorgie a donné à Biden une avance de 14 100. Une voix sur environ 5 millions de suffrages dans l'État que les démocrates n'ont plus remporté depuis 1992 à une élection présidentielle. Toujours à propos de la présidentielle américaine, Donald Trump a été donné vainqueur mercredi en Alaska, mais son gain de 3 grands électeurs ne modifie pas la donne. Joe Biden est le président élu des États-Unis. 8 jours après l'élection, aucun vainqueur n'a été déclaré dans 3 autres États encore, la Caroline du Nord, où Trump est en tête dans la course, et la Géorgie et l'Arizona qui penchent du côté de Biden. Le Parti démocrate est assuré de conserver le contrôle de la Chambre des représentants, mais avec une majorité réduite par rapport au Congrès sortant, au Sénat, la course reste ouverte, mais penche de plus en plus dans le camp républicain avec mercredi un 49e et un 50e siège au Parti républicain en Caroline du Nord et dans l'Alaska. L'épilogue de la bataille va se jouer en Géorgie, où les 2 derniers postes en jeu, particularités locales, seront attribuées à l'occasion d'un second tour le 5 janvier prochain. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a nommé mercredi l'un des plus hauts représentants du Parti démocrate, Ron Klain, comme son chef de cabinet et assistant. Ron Klain, 59 ans, est l'un des principaux confidents de Joe Biden, dont il fut un conseiller externe durant la campagne électorale, notamment sur les questions sanitaires. Il a collaboré pour la première fois avec M. Biden en 1989, lorsque ce dernier était sénateur, puis a été son principal conseiller à la Maison-Blanche lorsque Biden était le vice-président de Barack Obama. Et Donald Trump et Joe Biden ont rendu hommage séparément mercredi aux anciens combattants américains lors du Veterans Day, faisant de ce traditionnel moment d'unité une nouvelle démonstration des divisions qui traversent la classe politique et le pays. Le président républicain s'est rendu au cimetière national d'Arlington, près de Washington, où il a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Quasiment au même moment, le président élu Joe Biden, dont il ne reconnaît pas la victoire, assistait à une cérémonie au mémorial de la guerre de Corée à Philadelphie, dans le Nord-Est. Et sur le continent, les négociations à Tunis sur l'avenir de la Libye ont abouti à une percée et devraient permettre l'organisation d'élections dans un délai de 18 mois, a déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse la représentante spéciale des Nations Unies par intérim. Les participants à ces pourparlers qui ont débuté lundi sont parvenus à un accord de principe sur une feuille de route menant à des élections présidentielles et législatives avec des dispositions permettant d'unifier les institutions libyennes, a dit Stéphanie Williams. Le président ivoirien Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat controversé, et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan-Bédié, ont brisé la glace lors de leur rencontre mercredi à Abidjan, destinée à apaiser les violences électorales meurtrière en Côte d'Ivoire. C'était la première rencontre entre les deux hommes depuis l'élection présidentielle du 31 octobre, boycottée par l'opposition qui n'en reconnaît pas les résultats. La Cour de justice de la CEDEAO a déclaré les autorités guinéennes coupables d'homicide et d'actes de torture lors de la répression d'une manifestation qui avait fait 6 morts. Selon l'arrêt, l'État guinéen dispose d'un délai de 6 mois pour payer aux ayants droit des 6 personnes tuées, 5 milliards de francs guinéens chacun, ainsi que 3 milliards à 15 autres victimes de cette répression qui avaient porté plainte auprès de la Cour pour traitement inhumain, détention arbitraire. Et puis, en République démocratique du Congo, les Nations Unies et la très influente Église catholique sont intervenues mercredi dans la crise politique qui couve au sein de la coalition au pouvoir, en RDC, entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Jean-Roger Billon à ce micro, restez connectés sur VOA Afrique. Dans un instant, la suite de ce journal. Merci pour votre attention et merci surtout pour votre fidélité. La suite du journal, je l'ai dit, c'est dans quelques instants et c'est bien VOA Afrique. Merci pour votre attention.
La suite de nos informations en ce jeudi 12 novembre, au moins 11 000 Éthiopiens se sont réfugiés en 48 heures dans l'est du Soudan, fuyant les combats dans la région dissidente du Tigré, d'après un responsable soudanais. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
À ce jour, le nombre d'Éthiopiens ayant pénétré au Soudan monte à 11 000, affirme Al-Sir Khaled, directeur de l'agence soudanaise pour les réfugiés dans la ville frontalière de Kassala. Hier, le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a insisté sur la nécessité d'arrêter les combats en Éthiopie et de revenir à des négociations. Addis Abeba mène depuis le 4 novembre une opération militaire d'envergure dans la région dissidente du Tigré. Le Haut Commissariat aux réfugiés s'attend à une vague de réfugiés car il estime que la guerre risque de s'intensifier. La directrice régionale du HCR, Clémentine Kouéta Salami, insiste auprès des gouvernements des États voisins pour qu'ils laissent leurs frontières ouvertes à ceux qui ont été contraints de quitter leurs habitations. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé cette opération contre les autorités du Tigré qui l'a accusé d'avoir attaqué deux bases de l'armée fédérale sur leur territoire, ce qu'elle démente. L'Union africaine a réclamé mardi la fin des hostilités dans la région du Tigré. Le Front de libération des peuples du Tigré accuse Abiy Ahmed de l'avoir écarté du pouvoir depuis qu'il est devenu premier ministre en 2018.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a réélu pour un troisième mandat controversé et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, disent avoir brisé la glace lors de leur rencontre hier à Abidjan, destinée à apaiser les violences électorales meurtrières dans le pays. Jacques Aristide.
Un tête-à-tête pour rétablir la confiance, les mots d'Alassane Ouattara au terme de l'entrevue qui a duré une quarantaine de minutes à l'hôtel du Golfe, un lieu symbolique de la crise post-électorale de 2010-2011. Nous avons pu briser le mur de glace et le mur du silence, a renchéri Henri Konan Bédié, les deux hommes promettant d'autres rencontres à venir. C'était leur première réunion depuis la présidentielle du 31 octobre, boycottée par l'opposition qui n'en reconnaît pas les résultats et même depuis août 2018, après la rupture politique entre les deux hommes longtemps alliés. Nous allons dans les jours et semaines à venir continuer à nous téléphoner et à nous rencontrer pour qu'enfin le pays soit ce qu'il était avant, a promis M. Bédié. La paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi, a assuré le président Ouattara. Alors que la Côte d'Ivoire est secouée depuis trois mois par des affrontements électoraux qui ont fait 85 morts et près de 500 blessés.
Violence policière en Angola, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles contre des jeunes qui protestaient contre la pauvreté hier à Luanda. Les manifestations contre le gouvernement, généralement réprimées dans la violence, se succèdent depuis plusieurs semaines à Luanda, motivé par le taux élevé de chômage, le coût de la vie et la corruption étatique. Les précisions avec Bagassi Koura.
L'opposition avait appelé à une nouvelle manifestation mercredi, jour de la fête de l'indépendance, mais elle avait été interdite par les autorités locales qui avaient invoqué les restrictions liées à la pandémie. Les forces de sécurité ont affronté des dizaines de jeunes qui ont défié l'interdiction, les arrogeant de gaz lacrymogène et frappant les manifestants en fuite avec des matraques. Selon l'AFP, la police a même tiré à balles réelles. Les protestataires, soutenus par l'UNITA, le principal parti d'opposition, demandent également la tenue d'élections locales reportées à cause de la pandémie de coronavirus. Le dernier rassemblement, le 24 octobre, avait été violemment dispersé par la police anti-émeute qui avait arrêté plus de 100 personnes. Les manifestations étaient plutôt rares lorsque l'actuel président João Lourenço avait succédé à José Eduardo dos Santos en 2017, faisant renaître l'espoir d'un changement après des décennies de corruption et de népotisme.
À présent, à la Minute Éco avec John Lindon.
Le groupe hôtelier français Accor a procédé mardi au lancement des travaux de construction de trois hôtels dans la capitale djiboutienne. Dans son communiqué, l'établissement a indiqué avoir signé un accord de gestion avec Kamak Investment pour gérer ses premiers immeubles à Djibouti. Cette expansion africaine via Djibouti entre, selon Financial Afrique, dans le cadre d'un plan annoncé par Accor avant la pandémie de COVID-19 et qui incluait également des destinations telles que le Nigeria, le Cameroun, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Seulement 10% des adultes disposent d'un compte bancaire au Cameroun. 51% des personnes de plus de 15 ans n'ont pas accès ou n'utilisent pas des produits financiers formels. On note également une insuffisance des produits et services financiers adaptés aux besoins des personnes vulnérables. C'est ce qu'indique le quotidien d'État Cameroun Tribune en kiosque le 11 novembre 2020. Le site cameruninfo.net note que depuis le 10 novembre 2020 à Yaoundé, le gouvernement camerounais et le programme des Nations Unies pour le développement travaillent en synergie sur l'actualisation de la stratégie nationale pour améliorer l'accès des populations aux services financiers. La plateforme d'e-commerce africaine Jumia a annoncé une baisse de près de 18% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en passant d'un peu plus de 58 millions de dollars en 2019 à 38 millions de dollars actuellement. La firme a recentré sa stratégie sur des articles moins chers. Selon les chiffres du dernier rapport trimestriel, le bénéfice brut de Jumia après frais d'exécution a atteint 7 millions de dollars contre une perte de 2 millions de dollars au troisième trimestre de 2019.
Page de sport VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La fenêtre internationale de FIFA s'est ouverte hier sur le continent avec les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN. La Guinée a disposé du Tchad 1-0 à Conakry et prend provisoirement la tête du groupe A avec 7 points. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Madi Camara. Des buts de Sadio Mané et Opan Guette ont permis au Sénégal de s'imposer 2-0 à domicile face à la Guinée équatoriale. 1-1 entre la Mauritanie et le Burundi, même score entre le Kenya et les Comores. 3-2 pour la Guinée équatoriale face à la Libye. Cette troisième journée des éliminatoires se poursuit ce soir avec, entre autres rencontres, Cameroun-Mozambique, Côte d'Ivoire-Madagascar, Ghana-Soudan, Algérie-Zimbabwe, Congo-Eswatini, Gabon-Gambie ou encore Burkina Faso-Malawi. Grosse frayeur pour le Lesotho dans sa double confrontation contre le Bénin dans le cadre des éliminatoires de cette CAN. Mardi, la fédération lesothane a annoncé que 3 de ses joueurs et 2 officiels ont été contrôlés positifs au coronavirus. Le Lesotho est arrivé à Cotonou pour affronter le Bénin samedi pour le compte de cette troisième journée. Selon le protocole de la CAF, toute équipe qui ne pourra pas se déplacer et disputer un match dans ses qualifications pour des cas de coronavirus, perdra tout simplement le match 2-0. Après le match à Porto Novo le 14 novembre, les écureuils se rendront à Maseru le 17. Les footballeurs ne sont que des marionnettes que la FIFA et l'UEFA utilisent sans leur laisser la possibilité de donner leur avis lorsque de nouvelles compétitions sont créées, comme la Ligue des Nations ou la European Premier League. Projet à l'étude, a estimé Tony Kroos dans son podcast mercredi. Si on leur demandait leur avis, les joueurs ne participeraient pas à la Ligue des Nations ni à une Supercoupe d'Espagne délocalisée en Arabie Saoudite ou à une Coupe du Monde des clubs à 20 équipes ou plus, a affirmé le milieu de terrain allemand poursuivant. Ces tournois sont organisés pour pomper le plus d'argent possible et épuisent les organismes des joueurs. La légende du football argentin, Diego Maradona, a été autorisé mardi à quitter l'hôpital d'Olivos dans la banlieue de Buenos Aires où il avait été admis il y a 8 jours pour une opération à la tête, a annoncé son médecin personnel. Le champion du monde 1986 avait été hospitalisé pour de l'anémie et de la déshydratation le 2 novembre à La Plata, à 60 km de Buenos Aires, et dont il entraîne le club local.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, toujours en votre compagnie Jean-Roger Billon. Maintenant, les dossiers du jour. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a rejeté le refus de l'administration Trump d'entamer le processus de transition officielle, alors même que les principaux dirigeants du Parti républicain se sont rangés du côté du président Donald Trump dans ses efforts visant à annuler la victoire projetée de M. Biden à la présidentielle. Reportage Patsy Widakuswara, récit d'Ilidico.
Je voulais vraiment vous féliciter, vous et Kamala Harris, pour cette élection.
Je félicite vraiment le président élu Biden et Kamala Harris.
Plusieurs dirigeants mondiaux, dont le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson, ont félicité Joe Biden pour sa victoire projetée. Mais au niveau national, c'est une autre histoire. Écoutons le secrétaire d'État Mike Pompeo. Il y aura une transition en douceur vers un deuxième mandat de Trump. Le premier diplomate des États-Unis a donc refusé d'accepter le résultat des élections, répétant l'appel du président Donald Trump à ne compter que les votes légaux, un terme utilisé pour faire avancer les allégations, jusqu'ici sans fondement, selon lesquelles les démocrates auraient triché lors de l'élection. Joe Biden rejette catégoriquement ces allégations.
Il n'y a aucune preuve d'aucune des affirmations faites par le président ou le secrétaire d'État Pompeo.
Mardi, Biden a qualifié le refus de Trump de reconnaître sa défaite d'embarras, mais il s'est montré optimiste.
Le fait qu'il ne soit pas disposé à reconnaître que nous avons gagné à ce stade n'a pas beaucoup d'importance dans notre planification et ce que nous pouvons faire d'ici le 20 janvier.
Seuls quelques sénateurs républicains ont félicité Biden et sa colistière Kamala Harris, ainsi que George W. Bush, le dernier président républicain. Mais les leaders républicains se rangent du côté de Trump. Mitch McConnell est le leader de la majorité au Sénat.
Le président Trump est à 100% dans son droit d'examiner les allégations d'irrégularité et de peser ses options juridiques.
La plupart des républicains reconnaissent en privé que Biden sera le prochain président, mais ils ne veulent pas défier Trump, selon le stratège républicain Rob Stutzman.
Le calcul politique que vous ne voulez pas vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Donald Trump, qui pourrait en un seul tweet faire de faire sur vous la colère d'à peu près la moitié du Parti républicain. Personne ne veut de ce casse-tête.
Les constructions pour l'investiture du 20 janvier ont déjà commencé, mais le processus de transition formelle ne commence que lorsque la personne nommée par Trump à la tête de l'administration fédérale des services généraux annonce la transition. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Sans la coopération de l'administration sortante, les décennies d'expérience politique de l'ancien vice-président Biden seront essentielles, selon Barbara Perry de l'Université de Virginie.
Il connaît très bien la Maison-Blanche et la bureaucratie de l'exécutif et son fonctionnement. Il va donc mettre en place une équipe de transition comprenant des professionnels expérimentés de Washington.
Mardi, l'équipe de Biden a publié la liste des personnes qui examineront chaque agence gouvernementale pour assurer un transfert de pouvoir en douceur.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur les États-Unis un peu plus d'une semaine après les élections du 3 novembre. Donné vainqueur de la présidentielle par les projections de la VOA, le démocrate Joe Biden se tourne vers la transition. Pour sa part, le président sortant Donald Trump promet de multiplier les actions en justice. Que pensez-vous de ce scrutin présidentiel? Quelles devront être les priorités de la prochaine administration? Quid de la politique américaine pour l'Afrique? Nous attendons vos réactions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Des dizaines de demandeurs d'asile camerounais sont sur le point d'être expulsés des États-Unis vers le Cameroun. Le mois dernier, une cinquantaine d'autres avaient regagné de force leur pays d'origine, suscitant l'indignation de certains parlementaires américains. Mohamedou Oumfa, adjoint à Yaoundé Ilé Kamga, juriste expert en droits humains.
Les gens qui sont allés aux États-Unis, pour la plupart, peut-être parce que leur vie était menacée du fait de ces deux crises que traverse le Cameroun, et qu'ils trouvent refuge dans un État qui, par définition, était un État de droit, qui protège les droits de l'homme. Lorsqu'ils sont rapatriés, ça ne peut pas susciter que des inquiétudes. C'est ensuite autant plus compréhensible pour les parlementaires américains qui s'insurgent, pour la simple raison que l'image que renvoient les États-Unis à travers ces rapatriements ne colle pas avec l'idée qu'on se fait des États-Unis, qui est une terre de liberté, une terre des droits de l'homme. On ne peut pas comprendre que les États-Unis, tout en étant partie à un certain nombre de textes internationaux, acceptent de rapatrier des gens qui vont retrouver des régions dans lesquelles ils sont menacés. En tout état de cause, ces personnes sont des personnes qui ont des risques en se retrouvant au Cameroun, surtout en cette période particulière où le Cameroun, la crise n'a pas connu une atténuation et où on est en train de vivre une crise humanitaire mondiale de la pandémie de COVID-19.
On en parle très peu au Cameroun. Ça, c'est quand même une cinquantaine de personnes le mois dernier, des dizaines d'autres. Ça va faire près d'une centaine de personnes. On en parle très peu au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ce blackout, ce silence?
Mais le problème, on ne peut, la simple instruction des autorités policières camerounaises ne saurait justifier un tel blackout, me semble-t-il. Parce que l'argument qui est brandi, selon lequel les forces de sécurité auraient dressé une ceinture non accessible autour de ces personnes-là, est à mon sens très insuffisant pour justifier ce climat de silence qu'on observe. Parce que nous autres serions attendus à ce que même les familles des concernés essayent de communiquer de nature à pouvoir montrer ou pointer la gravité de la situation. On sait très bien que le gouvernement, par exemple, de Yaoundé, estime que le sol américain est un territoire à partir duquel des gens sont réfugiés pour structurer leur lutte contre le régime de Yaoundé dans les zones anglophones. Pour cette raison, simplement, il lui était indiqué pour les États-Unis de ne pas surtout rapatrier en ce moment et de montrer leurs bonnes intentions par rapport à leur prédisposition à aider le Cameroun à gérer cette crise qui fait de plus en plus de morts.
Justement, en tant que défenseur des droits de l'homme, quels conseils donnez-vous à ces personnes rapatriées ainsi qu'aux membres de leur famille?
Mais le premier conseil, c'est de dire que, à la réalité, la meilleure protection de leurs droits, c'est la communication sur leur situation. Si eux-mêmes ils font un blackout sur leur situation, ils courent des risques plus graves. Alors, ils doivent se rapprocher des organisations de droits de l'homme pour qu'une stratégie globale de protection de leurs droits ou alors de défense de leurs droits soit mise en place. En même temps, ils doivent savoir qu'ils ont intérêt à ce que les médias se saisissent l'affaire, pas seulement pour ce qui est du Cameroun, mais aussi pour ceux qu'ils ont laissés de l'autre côté aux États-Unis.
Le juriste Ilay Kamga était joint à Yaoundé au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, réaction des autorités après la condamnation de l'État à des réparations pécuniaires par la Cour de justice de la CEDEAO. Mardi, la juridiction sous-régionale a déclaré la Guinée coupable de violation de droit à la vie et condamnée au paiement d'importantes sommes d'argent aux victimes du dossier de Zogota, du nom du village situé dans le sud du pays, où des forces de l'ordre sont accusées d'avoir tué 6 personnes en 2012. On fait le point avec Zakaria Kamara, notre correspondant en Guinée.
Premier à réagir, les avocats des victimes. Pour Maître Pépé Antoine Lama et ses 3 collègues de l'ONG Même Droit pour Tous, il est temps que la justice guinéenne se saisisse de ce dossier pour traduire et juger les coupables.
Oui, écoutez, je pense que l'arrêt de la Cour doit interpeller la justice guinéenne à ses responsabilités. À la justice guinéenne, à présent, de jouer sa partition en recherchant et jugeant ceux-là qui sont impliqués dans le massacre de Zogota.
Dans son arrêt, la Cour a déclaré l'État guinéen coupable, entre autres, de violations de droit à la vie, de droit à ne pas être soumis à la torture, au traitement inhumain, cruel ou dégradant. Elle condamne la Guinée au paiement de 160 millions de francs guinéens, soit plus de 15 000 dollars à chaque ayant droit des 6 personnes tuées et 350 000 dollars à 15 autres victimes. Maurice Guilavogui, ressortissant de Zogota, parle de ouf de soulagement.
Nous pourrions peut-être maintenant, à partir de cet instant, pouvoir se recueillir paisiblement sur la tombe de nos parents qui sont décédés. Parce qu'au moins, on sait que même si justice a en partie rendu, parce qu'on n'a pas encore assisté à l'exécution de la décision, nous sommes aujourd'hui satisfait par rapport à toute la tournure, surtout à l'aboutissement, je dirais, partiel que cet événement est en train de prendre.
Dans les rues de la capitale, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO fait réagir certains Guinéens.
Que ce soit la justice de la CEDEAO aujourd'hui qui condamne l'État guinéen, je pense que d'un côté, c'est une source de satisfaction pour ces victimes-là. Et puis du côté de l'État, c'est vraiment un mauvais message.
Un grand pas vers la justice, c'était quelque chose que les victimes attendaient depuis longtemps et aujourd'hui c'est chose acquise et j'estime vraiment que l'État guinéen va s'exécuter pour appliquer cette décision de la Cour de la justice de la CEDEAO.
Aujourd'hui, c'est une victoire et pour ces victimes et surtout pour ces avocats qui se sont battus, qui ont cru que l'État guinéen devrait en principe être condamné dans ce dossier qui ne fait pas honneur à la Guinée et qui ne fait pas surtout honneur aux droits de l'homme en Guinée.
Selon moi, c'est une déception totale pour la Guinée. En tant que Guinéen, aujourd'hui, laisser la CEDEAO jouer le rôle de la justice guinéenne dans l'affaire guinéenne, moi je trouve que vraiment l'État est absent.
Dans un communiqué rendu public, l'État guinéen s'étonne de sa condamnation à des réparations pécuniaires par la Cour de justice de la CEDEAO. Il note que des cas d'agression physique et de destruction d'engins roulants dont les forces de sécurité ont été victimes dans l'exercice de leur mission ont été occultés par la Cour. En 2012, les forces de l'ordre et l'armée font une descente dans le village de Zogota suite à des mouvements de protestation organisés par les populations locales contre la société minière Vallée BSGR. 6 villageois sont tués et plusieurs autres interpellés. La Guinée a 6 mois pour exécuter l'arrêt de la Cour. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En RDC, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé une opération de récupération d'armes et d'effets militaires détenus illégalement par les civils dans la région de Goma. Au premier jour de cette opération dénommée « Armes contre 100 dollars », une dizaine d'équipements ont été rendus. Un reportage de notre correspondant à Goma, Charlie Kassereka.
La campagne a été lancée ce mercredi. Ces premiers jours, quelques équipements militaires ont été récupérés, à savoir une arme AK-47, des bombes et 7 chargeurs bien garnis et une tenue militaire. Tout ceci amené par des civils, chacun avec sa motivation. Témoignage sous anonymat de cette femme qui vient juste de remettre aux autorités un chargeur garni qui appartenait à son mari, parti depuis. Je me sens libre et soulagé après la remise de ces chargeurs. Il y a encore une tenue et des bottines. Didier Mwamba, lui, gardait son arme pour se venger de ceux qui avaient assassiné son père. Il a pardonné aujourd'hui et veut la paix. Il vient de rendre ici une grenade du type chinois.
Je pouvais faire du mal avec cette grenade. Je la gardais pour assassiner aussi la famille de ceux-là qui avaient tué mon père. Mais juste après la sensibilisation, je viens de la remettre. Je me suis dit, il est temps de pardonner.
L'initiative est du député national Patrick Mounyomo qui remettait entre 50 et 200 dollars américains en contrepartie pour toute arme et effet récupéré. Une campagne qui prendra plusieurs mois selon lui. Patrick Mounyomo.
Cette campagne de ramassage d'armes n'est pas une mission personnelle, c'est une idée venue de toute la population du Nord Kivu. C'est le grand moment à toute personne qui détient l'arme illégalement de les remettre. Il n'y aura pas de gens qu'on va inquiéter. Non, c'est le moment de les remettre et vous partez comme vous venez vous-même d'observer. Il y a des personnes qui détenaient ça et ils viennent de remettre et on vient de les encourager.
L'opération est saluée par plusieurs notables de Goma. Le gouverneur Karlin Zanzoukasivita estime que cette action contribuera à réduire le taux de criminalité, encourageant ainsi les détenteurs illégaux de venir remettre leurs armes sans crainte. Le gouverneur Karlin Zanzou.
Pour nous, autorités, une seule arme récupérée et qui était détenue légalement, c'est une contribution énorme. Même si ça sera une ou deux armes récupérées, ici, c'est une bonne chose.
Les armes récupérées durant cette campagne seront détruites, a expliqué le chef de l'exécutif en province. La ville de Goma, qui a plus d'un million et demi d'habitants, vit une insécurité permanente depuis plusieurs années. Pour une période d'environ 2 mois, plus d'une dizaine de civils ont été tués dans la ville. Ils sont des hommes d'affaires dans les secteurs miniers et fonciers, en plus des cambistes. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, réalisation Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour le suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à tous.